Hélène Philly, bonsoir.
Bonsoir à tous. Rendre visible ce qui absorbe tout, même la lumière. La toute première photo du trou noir au cœur de notre Voie lactée révélée aujourd'hui. La prouesse de quelques 300 chercheurs à travers le monde. Un mystère resté entier pendant 36 ans jusqu'aux aveux et à la mise en examen d'un homme aujourd'hui en Isère accusé d'avoir tué Marie-Thérèse Bonfanti en 1986. La famille n'a jamais cessé de se battre pour découvrir la vérité. L'actualité, c'est encore deux Français arrêtés en Iran. Paris exige leur libération immédiate. La Russie est-elle en train de couper le robinet du gaz ? Gazprom stoppe l'utilisation d'un gazoduc stratégique aujourd'hui. Le labello challenge qui inquiète dans les cours d'école. Et puis le conflit entre François Gabart et la classe ultime pour la route du Rhum qui prend un tournant judiciaire. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir on parle bénévolat. Depuis le Covid, 15% de bénévoles en moins, ça fait 2 millions de personnes. Ça handicape terriblement des associations comme par exemple SOS Amitié qui ont un mal fou à tourner. Peut-être que c'est l'occasion de repenser l'engagement, réfléchir à comment renouveler les bénévoles, aller chercher d'autres forces vives. C'est autour de tout cela que l'on discute ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter. Il a fallu synchroniser 8 télescopes à travers le monde et la photo est encore un peu floue. Un anneau lumineux, plus ou moins orange et au milieu, une tache sombre. Alors il ne faut pas s'y tromper, l'image est exceptionnelle parce que c'est celle du trou noir situé au cœur de notre galaxie à 27 000 années-lumière de nous. C'est la deuxième fois que l'on capte la silhouette de l'un de ces gargantua stellaires après celui de la galaxie Messier 87 il y a 3 ans. Pourquoi a-t-on raison tout de même de s'extasier devant ce nouveau cliché, Sophie Bécherel?
Eh bien parce que c'est le trou noir de notre galaxie, la cible première que les astronomes avaient en tête. D'ailleurs, les images ont été capturées en 2017, en même temps que celles de Messier 87. Mais il a fallu toutes ces années pour la rendre lisible. Vincent Piétu est astronome à l'Institut de radioastronomie millimétrique. Il fait partie de l'équipe internationale qui a réalisé ce travail.
Le trou noir qui est au centre de notre galaxie est 1500 fois moins massif que celui qui se trouve au centre de M87. Et donc la matière par exemple qui tourne autour de ce trou noir tourne en quelques minutes, là où elle met plusieurs jours à tourner autour de M87. Et nous on a essayé de faire une observation, comme une observation photo avec un long temps de pause de quelque chose qui bouge. Ben, il nous a fallu plus de temps pour nous assurer qu'à la fin on a quand même une image qui est statique mais qui est quand même bien fidèle à la structure.
Sur cette image justement, on voit un anneau brillant autour d'une région sombre. C'est le gaz incandescent qui est en train d'être englouti par le trou noir. Ce qui surprend les astronomes, c'est que deux trous noirs très différents, l'un massif, l'autre léger, donnent des images très semblables. Images riches en informations.
Les clichés montrent qu'on a a priori plutôt un champ magnétique très fort dans ces objets. Ils nous montrent aussi qu'on verrait plutôt cet objet plutôt par le pôle que par la tranche. Et ils nous montrent aussi que la relativité générale marche sur plusieurs sortes de grandeurs.
D'ici quelques temps, grâce aux nouvelles campagnes d'observation, ce n'est plus seulement une image figée, mais un film que les chercheurs espèrent obtenir. De quoi voir la dynamique de ces objets si fascinants.
Voilà, une prouesse scientifique et un article à lire sur franceinter.fr.
Paris exige la libération immédiate des deux Français arrêtés en Iran.
Les circonstances de leur arrestation restent assez floues, accusés d'avoir cherché à déstabiliser le pays, selon les renseignements iraniens. Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir Hélène.
Que sait-on de l'identité de ces deux Français?
Alors c'est un couple, hein, une femme et un homme, Cécile Collère et son compagnon. Son identité a été révélée hier soir par des médias iraniens dissidents installés en Angleterre et aux États-Unis, puis confirmée aujourd'hui par des proches. Ils sont arrivés, selon les mêmes sources, le 29 avril à Téhéran pour un voyage touristique. Ils sont restés 2 jours dans la capitale iranienne avant de visiter Kashan puis Ispahan et c'est lors de leur retour à Téhéran le 8 mai qu'ils ont été arrêtés. Cécile Collère est chargée des relations internationales pour un syndicat enseignant, le FNEC, FPFO. Téhéran l'accuse d'être entrée en contact avec des collègues pendant son séjour alors que depuis plusieurs semaines, les syndicats iraniens demandent une augmentation des salaires et la libération de dissidents actuellement sous les verrous.
Il y a donc désormais 4 Français emprisonnés en Iran.
Oui, 4 Français, hein, Cécile Collère et son conjoint donc. Benjamin Brière, condamné en début d'année à 8 ans et 8 mois de prison pour espionnage. Il est accusé d'avoir pris des photos de zones interdites avec un drone lors d'un voyage toujours présenté comme touristique. Et puis la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelha, condamnée il y a 2 ans à 5 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale. Depuis la révolution de 1979, ces détenus étrangers sont des monnaies d'échange utilisées par la République islamique pour obtenir des libérations de prisonniers iraniens ou faire pression sur les les Occidentaux.
Thibault Lefebvre, chaque jour en Ukraine, des tortures, des disparitions forcées, des violences sexuelles. La liste des crimes russes est interminable, a dit aujourd'hui face à l'ONU la première vice-présidente des affaires étrangères ukrainienne, brandissant ce tourbillon de lignes noires dessiné par un petit garçon violé devant sa mère. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU dans la foulée a voté à une écrasante majorité l'ouverture d'une enquête sur les atrocités reprochées aux Russes. Alors que Gazprom décide aujourd'hui de couper le robinet d'un gazoduc clé qui arrive en Europe par la Pologne, transit réduit aussi du gaz qui passe par l'Ukraine. Sylvain Tronchet, bonsoir. Vous êtes en direct de Moscou, Sylvain. Est-ce que la Russie est en train de mettre en œuvre sa menace et de couper le gaz aux Européens ?
Alors, on n'en est pas encore là, mais c'est vrai qu'en annonçant qu'il cessait d'utiliser le gazoduc Yamal-Europe, qui passe à travers la Pologne, le géant gazier Gazprom a donc coupé l'un des trois grands canaux d'arrivée du gaz vers l'Allemagne. Cette décision aggrave encore plus la situation énergétique du côté de Berlin, puisque depuis deux jours déjà, l'arrivée du gaz via un autre gazoduc, passant par l'Ukraine, est fortement perturbée. Russes et Ukrainiens se renvoient la balle sur la responsabilité de ce problème. Kiev affirme qu'il faut dérouter le transit en raison d'opérations militaires en cours. Moscou réplique que c'est impossible. En attendant, l'Allemagne, elle, a vu ses livraisons de gaz russe chuter de 40% en deux jours. Seul, en fait, le gazoduc Nord Stream 1, qui passe par la mer du Nord, fonctionne normalement. Le pays compense par des arrivées de gaz en provenance de Norvège et des Pays-Bas, mais la situation est tendue. Le ministre allemand de l'énergie, Robert Habeck, accuse la Russie d'utiliser l'énergie comme une arme. Et Vladimir Poutine, lui, de son côté, estime que c'est l'obsession des sanctions du côté de l'Union européenne qui va inévitablement aboutir à des conséquences les plus difficiles pour les citoyens européens.
Sylvain Tronchet, notre correspondant en Russie, en direct de Moscou, la Russie qui ne voit pas d'un bon œil le rapprochement de la Finlande, l'un de ses pays frontaliers, et de l'OTAN. Ce serait une menace, fait savoir le Kremlin. Le président et la première ministre ont confirmé aujourd'hui une adhésion sans délai à l'OTAN, et la France soutient pleinement ce choix.
C'était ce qu'on appelle un cold case, une affaire classée en bon français, vieille de 36 ans, qui vient d'être résolue.
Un homme mis en examen pour le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti, disparue en 1986 à 25 ans, alors qu'elle livrait des journaux près de Grenoble. Le procureur de la République faisait cet après-midi une conférence de presse et a rappelé les faits. Véronique Puégeot, France Bleu Isère.
Marie-Thérèse Bonfanti, 25 ans, maman d'une fillette de 4 ans et d'un bébé de 6 mois, distribue des journaux gratuits pour arrondir ses fins de mois. Ce 22 mai 86, elle dépose un paquet de journaux dans le hall de la maison Chatin. C'est comme cela qu'à Pontcharra, on appelle cette grande bâtisse, propriété de la famille Chatin, des commerçants bien connus dans la région. Yves Chatin, 21 ans à l'époque, raconte que Marie-Thérèse avait laissé sa voiture mal garée devant chez lui. Cela l'a agacée. Une dispute aurait éclaté entre eux. La jeune femme l'aurait suivie chez lui pour lui demander de s'excuser et c'est là qu'il l'aurait étranglée avant de dissimuler son corps. Maître Boulou, l'avocat de la famille Bonfanti.
C'est un soulagement. Ils n'ont aucune haine. Ils ont de l'amertume, c'est sûr, dans la mesure où il a fallu attendre 36 ans pour que cette vérité commence à être consacrée. Mais cette page, ils ne pourront la tourner définitivement et commencer leur deuil que lorsque M. Chatin leur donnera le lieu exact de la dissimulation donc du corps, et puis lorsqu'ils pourront lui donner une sépulture, on va dire, tout à fait digne.
Et selon le procureur Vaillant, Yves Chatin serait coopératif et aurait indiqué l'endroit où il avait caché le corps. Pour l'instant, les recherches n'ont rien donné.
Véronique Puyot, France Bleu Isère. Ce vaste coup de filet aussi près de Marseille. 11 personnes mises en examen, accusées de trafic de déchets dans une partie du sud-est, exportation illégale de tonnes d'ordures, déchetterie remplie à ras-bord jusqu'à l'incendie. L'enquête vise notamment l'incendie de l'usine de recyclage de Saint-Chamas en décembre dernier. Il avait duré plus d'un mois et provoqué une pollution de l'air digne de celle de Pékin, provoquant la colère des habitants et des élus. Trois nouvelles résidences secondaires visées en Corse par des incendies ou l'explosion d'une bouteille de gaz, avec sur l'une des maisons l'inscription FLNC, Front de Libération Nationale Corse. Une dizaine de maisons ont été endommagées depuis le début de l'année sur l'île. Éric Zemmour sera donc candidat dans le Var, la quatrième circonscription où il a fait l'un de ses meilleurs scores au premier tour de l'élection présidentielle, 14,7% des voix. Arrivé troisième derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête à plus de 32%. Cette circonscription, c'est celle de Saint-Tropez et de Cogolin. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Où il officialise ce soir sa candidature avec des militants de Reconquête.
Oui, Éric Zemmour qui a choisi la plage des Marines, ça ne s'invente pas, face au golfe de Saint-Tropez pour annoncer en ce moment moment même la nouvelle aux militants et défendre le choix de cette circonscription qui ne se réduit pas, dit-il, à Saint-Tropez justement.
Cette circonscription ne se réduit pas à Saint-Tropez. D'ailleurs, vous avez vu, je n'ai pas mis mon képi de gendarme pour venir vous voir. Cette circonscription ne se réduit pas à Saint-Tropez, ça ne se réduit pas non plus des riches dans des villas. Il y a aussi des gens plus modestes, il y a aussi des logements sociaux.
Éric Zemmour au micro de France Bleu. Une candidature donc pour redynamiser une campagne assez moribonde jusque-là. Faire taire aussi la petite musique qui montait sur les chefs de reconquête refusant l'obstacle. Sauter donc, quitte à prendre le risque de perdre. Face à lui, Sereine Mauborgne, députée sortante LREM.
Moi, j'ai décidé de servir ma circonscription. Lui a décidé de se servir de cette circonscription pour attraper un siège à l'Assemblée nationale.
Et Philippe Lothiot, candidat RN, qui rappelle qu'au second tour, 57% des électeurs de la circonscription ont voté Marine Le Pen.
Dans cette histoire, je me demande un peu où est la cohérence. Sur une circonscription, Marine Le Pen a fait 57%, où on peut envoyer un nouveau député Rassemblement National à l'Assemblée, quelqu'un qui vient un peu au dernier moment, après avoir fait des sondages pour savoir si le sens du vent était le bon, si l'eau était assez chaude, qui vient se présenter derrière. Bon, je pense que les gens ne sont pas dupes.
Et c'est aussi le pari des cadres du RN que l'électorat bourgeois de la côte qui se serait laissé tenter par Éric Zemmour à la présidentielle reviennent à un vote, je cite, plus conventionnel. Le Rassemblement National qui ces prochains jours promet de mettre les bouchées doubles sur la circonscription, Jordan Bardella devrait notamment s'y rendre.
Éric Zemmour dont la relaxe a été confirmée tout à l'heure en appel pour ses propos sur Pétain qui, disait-il, avait sauvé des juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale. Éric Zemmour a été poursuivi pour contestation de crimes contre l'humanité. C'est dans le paquet pouvoir d'achat que prépare le gouvernement. Cette mesure qui a été confirmée hier, la redevance audiovisuelle sera supprimée dès la rentrée prochaine. 138 euros qui contribuaient à financer l'audiovisuel public. Quel mécanisme pour la remplacer et quelle garantie pour le pluralisme et l'indépendance des médias? Élément de réponse avec Philippe Lefebvre.
Alors la suppression de cette taxe, qui existe tout de même depuis 1933, devrait être inscrite dans le projet de loi rectificatif présenté à l'Assemblée nationale en juin prochain, juste après les élections législatives, et elle permettra au final à près de 23 millions de foyers qui payent effectivement la redevance de faire une économie de 138 euros par an. Reste à savoir comment, sans la redevance, seront financées les chaînes de télévision et de radio publique, car cette taxe représente tout de même 3 milliards d'euros par an, 74% du budget total de l'audiovisuel public. Alors depuis octobre dernier, des membres de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires culturelles planchent sur la question. Emmanuel Macron, à l'époque où il était candidat à sa propre succession, avait annoncé sur notre antenne la mise en place d'un budget sur plusieurs années, sur 5 ans, selon le porte-parole du gouvernement. Mais du côté de l'exécutif, on reste discret sur le calcul de ce nouveau budget. Tout juste explique-t-on que le nouveau financement de l'audiovisuel public devrait être mis en place d'ici la fin de l'année.
Et puis le patron d'EDF, de son côté, monte au front contre le bouclier tarifaire du gouvernement qui l'oblige à brader sa production d'électricité à ses concurrents. Il annonce un recours gracieux dans un premier temps, mais qui ouvre la voie en cas de refus du gouvernement à une saisine des juridictions administratives.
L'enseignement à distance serait-il la solution quand on manque de profs?
On a découvert cette possibilité, contraint et forcé avec le confinement, mais alors que les syndicats s'inquiètent aujourd'hui de la baisse du nombre de candidats au concours de recrutement de l'éducation nationale. Est-ce que l'Académie de Nancy-Metz n'a pas trouvé là la bonne idée? Alors les syndicats sont loin d'être convaincus par cette expérimentation. Une brigade numérique de remplaçants pour pallier le manque de profs dans les zones rurales notamment et dans 7 disciplines, Vianney Zmarowski.
Ce sera le cas en maths, en anglais ou encore en histoire géo par exemple. Quand un prof sera absent trop longtemps, les élèves resteront en classe mais l'enseignant sera à distance. Bruno Henry est secrétaire académique du SNES-FSU.
Penser que l'on puisse assurer le remplacement par des visios, c'est tout simplement montrer une méconnaissance totale et flagrante du métier d'enseignant. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas comme ça. Pour enseigner, il faut être dans la classe, il faut être avec les élèves, il faut pouvoir nouer avec eux une relation et y compris une relation sur le long terme.
Régis Morbar partage cette idée. Et pour lui, la brigade numérique de remplaçants ne répondra pas au problème. C'est le secrétaire départemental FO, lycée et collège en Moselle.
Il ne va absolument pas répondre à la situation, à la pénurie de remplaçants. C'est pas de cette façon-là qu'on va y répondre. Parce que là, les 7 postes qui vont être prévus, ça sera des enseignants titulaires. Donc ça sera autant d'enseignants qui ne seront pas en phase d'élèves à la rentrée. Ce qui ne sont réservés que pour ça.
Les syndicats opposés à la création de cette brigade réclament plutôt des créations de postes et des revalorisations de salaires. Jean-Marc Huard est le recteur de l'Académie Nancy-Metz.
Un cours à distance est inévitablement dégradé par rapport à un cours cours en présence. Mais oui, vaut mieux ça plutôt que pas de cours du tout. Je dispose des moyens de professeurs. Ce que je trouve pas ponctuellement dans certains territoires, c'est la ressource humaine. C'est-à-dire, j'ai le poste, j'ai les moyens budgétaires, j'ai l'argent pour rémunérer, mais je ne trouve pas les personnes.
Les cours à distance seront assurés pendant une durée de 7 semaines maximum et l'expérimentation doit durer 2 ans.
Reportage France Bleu Lorraine. Connaissez-vous le Labello Challenge? Comme souvent dans ces défis qui font le tour des cours d'école, l'idée de départ est plutôt innocente. Échanger un baiser pour deviner le goût du baume à lèvres d'un camarade. Mais avec les réseaux sociaux, le phénomène a pris de l'ampleur et a changé de nature. Le principe désormais, c'est de couper un bout du labello quand on se sent mal et à la fin du tube, il ne resterait plus qu'à se suicider. De quoi inquiéter adolescents et parents rencontrés par Lucie Rispal.
À la sortie d'un collège parisien, Lamia, 13 ans, en classe de 5e, sort son téléphone portable. Sur le réseau social TikTok, un nouveau défi lancé aux adolescents et relayé par plusieurs utilisateurs.
C'est un challenge qui consiste à se mettre du labello à chaque fois que tu te sens pas bien. Et quand ton labello il est fini, les jeunes doivent se suicider.
Dès que tout le monde aura vu, il y en aura un qui va parler à d'autres personnes et ça va tourner dans le collège.
Héloïse, elle, est au lycée, mais sa petite sœur lui a déjà parlé de ce jeu dangereux.
Je pense que c'est horrible et que ça va pas aider. Après, c'est peut-être une manière de dénoncer un mal-être, mais c'est mieux de demander de l'aide.
Certains parents, comme Francesca, sont particulièrement attentifs au contenu que consultent leurs enfants.
C'est pas le premier jeu, il y en a sans arrêt, en fait. Mais moi, je surveille. On vérifie un petit peu tout ce qu'il fait, les problèmes de tablettes et tout ça.
Le Labello Challenge n'a fait aucune victime, selon le ministère de l'Intérieur. La gendarmerie du Nord a posté un message d'alerte sur sa page Facebook. Le colonel Laurent Gladieux.
Si un camarade de classe se rend compte qu'il y a un de ses camarades qui, à cette époque de l'année, alors que les températures sont plus que clémentes, met du baume pour éviter les lèvres gercées, il peut s'inquiéter, quoi, et il se doit d'alerter.
L'association e-enfance a mis en place en partenariat avec le gouvernement une cellule d'écoute pour les violences numériques avec un numéro dédié. Le 30-18.
Reportage Lucie Rispal. Dans l'affaire des pizzas Buitoni qui ont contaminé plusieurs dizaines d'enfants, 2 sont décédés. On apprend ce soir que le parquet de Paris ouvre une information judiciaire. Les ultras de Nice plaident le second degré face à l'indignation provoquée par leur chant hier soir pendant le match face à Saint-Etienne. 4 jours après leur défaite face à Nantes, en finale de la Coupe de France de foot, ils ont moqué le joueur Emiliano Sala, l'ancien attaquant argentin nantais, mort dans un accident d'avion il y a 3 ans. Consternation générale, la commission de discipline est saisie. On atteint des sommets de bêtises, regrette la ministre des Sports. Et voici une affaire qui ne va pas se régler en mer, mais devant un tribunal. Le navigateur François Gabart et son sponsor saisissent la justice en espérant qu'elle leur permette de prendre le départ de la prochaine route du Rhum. C'est toujours la conformité du nouveau bateau qui pose problème, Jérôme Val.
Et une fois n'est pas coutume dans ce sport de vitesse où les terrains de jeu sur les océans du monde entier semblent infinis, tout le monde se retrouve dans une impasse. François Gabart d'abord, qui répète depuis des mois que son nouveau bateau mis à l'eau à l'été 2021 est parfaitement conforme aux règles internationales, comme l'ont d'ailleurs jugé des experts indépendants. Les autres marins de cette classe ultime ensuite, avec leurs armateurs, ils estiment que ce trimaran présente des manques en termes de sécurité à bord. La classe refuse donc de le valider, ce qui pourrait empêcher François Gabart de participer à toutes les courses, dont la Route du Rhum, l'objectif majeur de la saison. Faute de médiation, le skipper, avec son sponsor, le fabricant de cosmétiques Cresc, a donc saisi en référé le tribunal de Paris pour, dit-il, assurer le respect de ses droits et demander réparation du préjudice subi. Le dialogue est bel et bien rompu, le bras de fer engagé dans un milieu qui pourtant avait affiché jusque-là une belle image d'unité, de solidarité et de camaraderie.
Et la Route du Rhum, dont le départ sera donné le 6 novembre prochain à Saint-Malo.
Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Hélène Fili. À demain, bien sûr. Nous, on reste ensemble pour le téléphone sonne. On parle bénévolat ce soir. Une activité peut-être à réinventer, à rajeunir, parce que les bénévoles, depuis le Covid notamment, se font de moins en moins nombreux. Et les associations, bien sûr, en souffrent. Un œil sur le ciel avant cela.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Élodie Calac, quelques averses orageuses encore ce soir.
Oui, elles se décalent vers le nord-est et puis elles vont s'estomper progressivement. Mais on en a d'autres qui vont gagner l'Aquitaine cette nuit. Demain matin, des averses orageuses donc sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Elles gagneront le Massif central, le nord des Alpes et le Jura l'après-midi. On retrouvera de belles éclaircies sur les plaines du sud-ouest. Entre le nord-ouest, le bassin parisien, le nord de la Seine et l'Alsace, beaucoup de soleil. Demain, juste quelques passages nuageux près de la Manche le matin. Et puis du Roussillon au sud des Alpes et en Corse, là aussi du soleil et un peu de grisaille,
et
vite oublié.
Des températures, pardon, en hausse à l'ouest.
Oui, nouvelle hausse pour l'après-midi. Alors, on aura 17 degrés au Havre, à Saint-Malo, 23 degrés à Paris, 24 à Nantes et à Ajaccio, 25 à Strasbourg, à Bourges ou à Limoges, 26 degrés du côté de Lyon et de Marseille, 27 à Toulouse et encore 29 à Grenoble. Et puis, la hausse va se poursuivre pour ce week-end. Ce sera chaud et parfois orageux sur l'ouest et en montagne.
Merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France.